Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, l'antenne vous appartient comme tous les jours. RFI vous propose de commenter l'actualité et ce matin, eh bien, nous reviendrons sur la libération de Serge Lazarevic car une semaine après, eh bien, c'est toujours l'incompréhension dans les rues de Bamako. L'opinion publique, vous le savez, vit très mal la libération de quatre djihadistes en échange de l'otage français. En tout cas, ces derniers jours, les autorités maliennes se sont expliquées. Vendredi, c'était le ministre de la Justice. Il a affirmé que c'était un devoir vis-à-vis de la France. La France qui, vous le savez, est engagée depuis maintenant 2 ans aux côtés de Bamako dans la lutte contre le terrorisme. Et hier, sur RFI, c'était au tour du président malien de s'exprimer, le président Ibeka, qui a d'abord reconnu que c'était une décision difficile à prendre, mais il a promis que les 4 hommes seront traqués où qu'ils soient. Alors que pensez-vous de l'attitude des autorités de Bamako dans la gestion de la libération de Serge Lazarevic ? Fallait-il libérer ces 4 terroristes ? Quelles peuvent être maintenant les conséquences ? Vous nous rejoignez, 33 9 693 693 70, 09 693 693 70. Si vous nous appelez de France, vous nous suivez également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Je regarde la page Facebook de l'émission, plus de 400 messages postés. C'est vrai que c'est un sujet qui suscite énormément de réactions, de commentaires, et vous êtes tout aussi nombreux au standard. Ce sera le débat du jour donc dans maintenant une trentaine de minutes. Mais d'abord, votre rendez-vous quotidien avec la rédaction des RFI, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Et nous avons reçu depuis le début de la semaine plusieurs questions sur le réchauffement climatique avec en toile de fond la conférence de Lima qui s'est terminée dimanche après 13 jours de négociations, et les négociations ont été par moments assez tendues. Eugène, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Lomé, au Togo, on vous écoute.
Ok, merci de m'avoir donné cette opportunité aussi de m'exprimer sur les antennes de RFI.
Allez-y.
Voici ma question. La conférence de Lima sur le climat s'est terminée dimanche dernier. Concrètement, quels engagements faut-il prendre au niveau des États pour que la hausse de la température soit limitée à 2 degrés?
Ah, effectivement, les fameux 2 degrés à ne pas dépasser d'ici à 2050. Bonjour Anne-Cécile Bras.
Bonjour Juan, bonjour Eugène.
Merci d'être avec nous, vous êtes la spécialiste des questions environnementales à RFI. On vous retrouve évidemment le samedi et le dimanche pour le magazine C'est pas du vent. 2 degrés, c'est la température à ne pas dépasser d'ici à 2050, puisqu'à partir de cette température, la vie sur notre planète deviendra beaucoup plus compliquée. La question d'Eugène, c'est une question de bon sens. Que faut-il faire pour atteindre cet objectif?
Alors les 2 degrés, heureusement, c'est pas 2050, Juan, c'est 2100, ça nous laisse plus de temps.
Vous me rassurez alors.
Enfin, je suis pas sûre que ce soit tellement rassurant. En fait, en effet, ces 2 degrés, il faut juste rappeler rapidement, vous le disiez, c'est la hausse de la température moyenne de la planète qu'il ne faut pas dépasser selon les scientifiques, sinon, on va avoir du mal à vivre harmonieusement sur cette planète. Il faut juste savoir qu'actuellement, la température moyenne de la planète, on ne s'en rend pas compte, mais c'est 15 degrés et elle a déjà augmenté de près d'un degré au XXe siècle. L'objectif, c'est donc d'enrayer ce réchauffement, et concrètement, ça veut dire qu'il faut que les émissions de gaz à effet de serre que nous émettons soient divisées par 2 d'ici 2050 et que nous n'en émettions plus du tout dans la deuxième partie du siècle. Et les scientifiques du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat, insistent sur la nécessité de réduire fortement nos émissions d'ici 2020.
Et donc concrètement, que doivent faire les 190 pays concernés par cette question?
Oui, c'est tout le combat qui se joue actuellement. Il faut que les principaux pays émetteurs modifient 5 grands secteurs de leur économie. L'approvisionnement en énergie, tout d'abord, qui représente 1/3 des émissions totales. Il est donc urgent d'arrêter de miser uniquement sur les énergies fossiles, comme le charbon et le pétrole, et de développer massivement les énergies renouvelables. Mais en parallèle, il faut consommer moins d'énergie en modifiant nos habitudes trop polluantes dans des secteurs comme l'industrie, les transports, transports, les bâtiments, le secteur agricole et le secteur forestier. Alors c'est encore possible, hein, c'est ça la bonne nouvelle que nous disent les scientifiques. Pour rester sous cette barrière des 2 degrés, on peut encore le faire, d'autant que nous avons les techniques pour faire cette transition à notre disposition, mais les émissions de dioxyde de carbone, le principal gaz à effet de serre, continuent d'augmenter de 2,5% chaque année. Vous comprenez donc qu'il est urgent qu'il y ait des décisions politiques fortes à la hauteur des enjeux.
D'où l'intérêt évidemment de ces conférences sur le climat et surtout, on en attend beaucoup, de la prochaine conférence qui se tiendra en décembre prochain à Paris. On aura l'occasion certainement d'en reparler. Anne-Cécile Bras, reste avec nous. Arsène nous rejoint. Bonjour Arsène.
Oui, bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les états de RFI, la radio mondiale qui nous informe et qui nous forme.
Ah bah c'est gentil, ça c'est un beau slogan, je pense qu'on va immédiatement le communiquer au service de presse d'RFI, la radio qui vous informe et nous forme. On vous écoute, vous avez une question également sur le réchauffement climatique.
Oui, merci Juan Gomez, ma question est celle-ci. Est-ce que les états émergents comme la Chine, qui est actuellement le premier émetteur de gaz à effet de serre, se sont engagés à réduire cette émission à l'issue de la conférence de Lima?
Ah, il y a eu un bras de fer, Anne-Cécile, hein, entre les Chinois et les Américains. J'ai envie de dire, comme à chaque conférence sur le climat, il y a des clivages entre le Nord et le Sud. Mais là, on a vu, sans surprise, que la Chine a tenté de bloquer ces négociations.
Alors, à Lima, la Chine s'est rapprochée, on va en parler dans un instant, comme elle le fait toujours un peu. C'est le parapluie, on va dire, des pays les plus vulnérables et des pays en voie de développement. Mais ce qu'il faut noter, c'est ce qui s'est passé avant Lima, finalement, en termes d'engagement de réduction d'émissions, puisque en octobre, l'Union européenne, qui ne représente que 11% des émissions, mais ce n'est quand même pas rien, a adopté son plan climat. Les 28 pays se sont engagés à réduire de 40% leurs émissions d'ici 2030. Le 12 novembre, ça, on en avait beaucoup parlé sur les antennes de RFI, hein, les États-Unis et la Chine, qui représentent à eux deux 45% des émissions mondiales, ont déclaré conjointement, et c'est historique, qu'ils allaient réduire leurs émissions. Les États-Unis ont annoncé une réduction de 26 à 28% de leurs émissions d'ici 2025 par rapport à 2005. Alors, par rapport à 2005, ça paraît beaucoup. Quand on ramène à 1990, c'est seulement 2-10%. Quant à la Chine, elle envisage d'atteindre un pic des siennes autour de 2030, si possible avant, a-t-elle précisé. Et puis tous les autres pays doivent annoncer leur contribution nationale, c'est-à-dire ce que chacun sera capable de faire d'ici le mois de mars, pour ceux qui le peuvent, hein, c'est ce qui a été décidé à Lima, sinon jusqu'en octobre. Alors c'est un peu tard, parce qu'on sera seulement 2 mois avant la conférence décisive de Paris, qui aura lieu début décembre, et c'est une des grandes déceptions de Lima, d'autant plus qu'à Lima, on n'a pas non plus réussi à se mettre d'accord sur des mécanismes d'analyse de ces annonces pour pouvoir comparer et savoir après vérifier dans le temps si les engagements pris sont bien effectifs.
Mais enfin, à vous entendre, Anne-Cécile, les engagements pris dimanche dernier à Lima sont insuffisants.
Alors, c'est pas vraiment... Oui, enfin, globalement, on peut dire ça, bien entendu, si on se place du point de vue des scientifiques, on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire. On va plutôt, on parlait des 2 degrés tout à l'heure, on va plutôt vers une trajectoire de 3 à 4 degrés d'ici 2100, donc le double. Et ça veut dire une hausse du niveau de la mer supérieure à ce que l'on connaît déjà et avec des conséquences très importantes, notamment pour l'ensemble des populations qui vivent près des côtes. Ça veut dire une augmentation des sécheresses, un accroissement des inondations, enfin, une planète difficile à vivre pour les 9 milliards d'humains que nous serons en 2050.
Ouais, on va prendre une dernière question avec Maki. Bonjour.
Oui, bonjour Juan, bonjour Anne-Cécile.
On vous écoute, vous nous appelez de Conakry.
Tout à fait, Juan. Bon, étant dans le même contexte que le précédent, j'aurais une seule question pour Anne.
Allez-y.
Puisque depuis plusieurs années maintenant, les négociations bloquent à cause de cette vive opposition qu'il y a entre les pays du Nord et ceux du Sud. En partant de là, j'aimerais savoir si cette rencontre à Lima a permis de dépasser ces clivages qui existaient entre eux.
Ah, la rencontre de Lima a-t-elle permis de dépasser les clivages entre le Nord et le Sud, Anne-Cécile?
Eh bien, non. Malheureusement, enfin, je devrais pas sourire, mais parce que non, évidemment, et ça va être tout l'enjeu de 2015, hein, si on veut obtenir un accord à Paris, il faut qu'il y ait un accord entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et d'ailleurs, si la conférence a été prolongée pendant 36 heures, c'est à cause de cela, à Lima, à cause de l'opposition entre les pays en développement et les pays industrialisés, historiquement responsables du réchauffement climatique. La Chine et les pays émergents ont fait front uni, hein, avec les pays les plus vulnérables. Ils ont obtenu, c'est ce qui a été très difficile à obtenir à Lima, que les États-Unis acceptent que l'adaptation aux conséquences des changements climatiques soit traitée comme un sujet égal à l'atténuation, puisque c'est vraiment ça qui est vital pour les pays les moins avancés et les petites îles. La question, c'est combien les riches sont-ils prêts finalement à payer pour que les plus pauvres, dont la population et les besoins en énergie ne vont cesser de croître, se détournent des combustibles fossiles. Alors vous savez, il y a le Fonds vert pour le climat. Actuellement, on sait qu'il va être doté de 10 milliards de dollars. Alors qu'on, mais ce n'est pas une réponse suffisante.
Oui, parce qu'à un moment donné, j'entendais moi parler de 100 milliards de dollars nécessaires chaque année.
Oui, alors ça, c'est l'objectif pour 2020. Pour l'instant, on est à 10 milliards. C'est déjà beaucoup, hein, par rapport à ce que l'on avait en septembre. Ça augmente, donc, mais on est encore loin du compte. Et donc, finalement, on peut se dire que la question, ça va être, durant cette année 2015, au-delà simplement des négociations sur les changements climatiques, l'une des questions, ça va être... le droit au développement, et c'est cela qui est en train de se négocier en ce moment.
Et on suivra ça évidemment avec vous durant les prochains mois. Anne-Cécile Brun, on vous retrouve samedi et dimanche. De quoi nous parlez-vous ?
Alors samedi, on va parler d'un accord, en fait. Pour le coup, là, il y a eu un accord entre l'UICN, le WWF et RFI et de nombreuses radios en Afrique de l'Ouest dans 10 pays qui se mettent d'accord pour parler d'environnement aux communautés. Ça, ce sera samedi. Mmh. Et dimanche, nous parlerons des sols, puisque l'année 2015 sera l'année internationale des sols. Et actuellement, près de la moitié des sols de la planète sont pollués. En situation de désertification.
Ah, de désertification.
Voilà, très sec et donc difficile à exploiter. Vous vous doutez bien que ça peut avoir de grosses conséquences sur la sécurité alimentaire.
Et on vous écoutera donc samedi et dimanche, c'est pas du vent avec Anne-Cécile Brun. Vous souhaitez parler du réchauffement climatique, vous souhaitez nous interpeller sur l'environnement, eh bien n'hésitez pas, demain c'est vendredi, c'est donc la Libre Antenne, vous commentez l'actualité de votre choix. 33 9 693 693 70. Pierre Pinto du Service Afrique, mon rejoint. Bonjour Pierre.
Bonjour Juan.
On vous a demandé de venir puisque vous avez suivi, vous, le dossier de l'ancien rebelle Babalade, arrêté récemment en Centrafrique. On a justement une question sur cette actualité. Abdelkerim, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Sans Frontières.
Merci. Que des slogans ce matin sur notre antenne, on est ravis. Vous êtes au Tchad, on vous écoute.
Effectivement. L'ex-chef rebelle tchadien Babalade a été arrêté en République centrafricaine. À ce propos, j'aimerais savoir pourquoi a-t-il été arrêté? Et pourquoi il était démis de son poste et fui en République centrafricaine?
Ouais. Alors, on va essayer de comprendre. C'est vrai que c'est un peu compliqué, Pierre Pinto, quand on ne connaît pas le parcours tumultueux, hein, de Baba Ladé. Effectivement, il a été arrêté en Centrafrique après avoir été démis de ses fonctions de préfet par le président Déby. D'abord, pourquoi est-ce qu'il a été démis de ses fonctions?
Alors d'abord, il faut dire que Baba Ladé avait été nommé en effet préfet de la Grande Sido, un département du Moyen Chari, c'est dans le sud du Tchad, le 19 juillet dernier. Dernier épisode d'un feuilleton à rebondissement que constituent les relations tumultueuses, vous le disiez, entre le chef rebelle Peul et le régime d'Idriss Déby N'Djamena. La Grande Sido, c'est un département du sud du Tchad situé à la frontière avec la Centrafrique où sévissait Babalade d'ailleurs et ses hommes il y a encore quelques années. Le 24 novembre donc, Babalade est en effet démis de ses fonctions de préfet. En fait, il fait partie d'une série de préfets et sous-préfets remplacés, officiellement un réaménagement administratif, mais en réalité Mamat Abdelkader Babalade est débarqué en même temps que les préfets de Sar dans le Barko, de Kiabé dans le lac Iro et que plusieurs sous-préfets dans ces départements du sud. Alors, faut-il y voir un lien? En tout cas, ça mérite d'être pointé. Fin novembre, novembre. Nous sommes alors en plein scandale du carburant au Tchad. Des régions entières souffrent de graves pénuries de carburant alors que théoriquement elles sont approvisionnées. Ce qui veut dire que ce carburant tchadien est vendu à l'étranger et notamment en Centrafrique où il abreuve les villes comme Kagabandoro ou Batangafo dans le nord du pays. Et ces pénuries mettent la population en colère. Nous sommes alors quelques semaines seulement après le renversement de Blaise Compaoré au Burkina et le pouvoir tchadien prend donc très au sérieux ce mécontentement populaire.
Alors pourquoi Babalade a-t-il fui en République centrafricaine ?
Alors il faut rappeler que Babalade, une fois démis de ses fonctions, reste malgré tout à Maro, sa préfecture. Un bus qui venait le chercher sa famille quelques jours après le décret présidentiel a été fermement prié par des groupes de jeunes de faire demi-tour. En début décembre, ce sont des militaires qui cette fois frappent à la porte du domicile de l'ex-préfet pour l'emmener. Mais celui-ci réussit à se faire la belle, laissant sa famille sur place. Il disparaît dans la nuit. On est sans nouvelles de lui pendant plusieurs jours. Il faut comprendre que la ville de Maro est à moins de 30 kilomètres de la frontière centrafricaine par la route, encore plus proche d'ailleurs si on quitte cette route qui mène directement à Cabo et Batangafo en RCA, des villes tenues par la Seleka chez qui Babalade connaît du monde. En tant que chef d'un groupe armé qui s'appelait le FPR, il a été très actif dans cette zone il y a quelques années et a évidemment encore des contacts sur place. Au bout d'une semaine en tout cas, il réapparaît vers Cabo, donc de l'autre côté de la frontière. Il se rend au contingent de la MINUSCA basé dans cette ville. De bonnes sources, il se disait d'ailleurs poursuivi par des éléments tchadiens en territoire centrafricain et aurait préféré se livrer au casque bleu avec un de ses compagnons de route, un certain Adamou Moussa. Nous sommes là le 8 décembre. Le 10, son arrestation est confirmée par la MINUSCA. Il est transféré à Bangui où il est entendu par la section de recherche et d'investigation de la gendarmerie.
Il y a des charges retenues contre lui ?
Alors d'abord, une enquête préliminaire est ouverte, puis une information judiciaire pour assassinat, détention illégale d'armes de guerre, association de malfaiteurs et incendie de village, des faits qui remonteraient à 2010-2012 lorsqu'il était à la tête du FPR, son mouvement rebelle du nord de la Centrafrique. L'instruction peut durer longtemps, en attendant il est derrière les barreaux. Dans l'état actuel, ce qu'il faut dire, c'est dans l'état actuel de l'institution judiciaire en Centrafrique, il ne peut pas vraiment être jugé. La justice du pays n'est pas en mesure d'organiser en toute sécurité ce genre de procès. Et puis le Tchad pourrait réclamer son extradition, mais pour l'instant, officiellement, rien n'a été fait en ce sens.
À suivre donc. Merci beaucoup Pierre Pinto, Abdelkerim, bonne journée à N'Djamena. On va parler de Thierry Henry, vous le savez, il a pris sa retraite internationale. Cheikh, bonjour.
Bonjour, bonjour bonjour.
Vous êtes à Kati, c'est pas très loin de Bamako, au Mali. On vous écoute sur Thierry Henry.
Suite à la démission de Thierry Henry, mes questions sont les suivantes. Comment expliquer sa popularité auprès des supporters d'Arsenal? La seconde question est, que va-t-il faire après sa retraite?
Alors, on va essayer d'y voir plus clair et d'avoir peut-être une boule de cristal. Bonjour Christophe Jousset.
Bonjour Juan.
Avant de répondre à l'avenir, sur l'avenir de Thierry Henry, c'est vrai que sa popularité est incroyable à Arsenal. On en a encore reparlé ces derniers jours avec l'annonce officielle donc de la retraite de Thierry Henry. Comment expliquer cette popularité? C'est une vraie légende sur place.
Bah, tout simplement parce que c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Il a passé 8 saisons à Arsenal et il a marqué 228 buts. Il a détrôné une légende qui s'appelait Ian Wright, et qui fait partie des très nombreux et très grands joueurs à lui avoir rendu hommage lorsqu'il a annoncé sa retraite il y a 2 jours. Voilà pourquoi, donc 228 buts, et puis aussi, non seulement une efficacité devant le but, mais aussi de l'altruisme, parce qu'il détient toujours, 12 ans après les faits, le record de passes décisives au cours d'un même championnat d'Angleterre, au cours d'une même saison, c'était en 2002-2003, il avait délivré 20 passes décisives, donc passeur décisif, meilleur buteur de l'histoire, une légende et une statue entre les deux stades d'Arsenal, l'ancien Highbury dont il avait fait son jardin et l'actuel l'Emirates.
Une statue en bronze, en tout cas. Ce qui est incroyable, c'est que même après son départ pour Barcelone, on aurait pu croire que les supporters seraient déçus, lui en voudraient, et c'est toujours pas le cas. On l'a vu, le nombre d'hommages qui lui ont été rendus ces derniers jours, ces dernières heures est incroyable. Que va-t-il faire maintenant?
Il rentre à la maison. maison, c'est-à-dire à Londres. il va signer un contrat de consultant avec Sky Sports. C'est souvent la porte de sortie pour les grands joueurs, consultants.
À la télévision?
À la télévision, voilà, où il va toucher, d'après les chiffres qui circulent, 4 millions d'euros par an. Ce qui va en faire le joueur le consultant le mieux payé. Mais c'est vrai que c'est un bon investissement, hein, pour un consultant, parce que Thierry Henry est connu aussi pour sa connaissance très profonde de l'histoire du football. Il s'intéresse toujours à tout, y compris aux divisions inférieures. C'est une véritable bible. Et puis en plus, il a l'expérience d'un joueur qui a joué, bon, quatre phases finales de Coupe du Monde. C'est le seul Français à avoir fait ça. Enfin, il a tellement d'expérience. Et en plus, une science du jeu et de l'histoire de son sport, que ça sera forcément un super consultant.
Merci beaucoup. Bonne journée, Christophe Jousset. Restez avec nous tout de suite, le journal. Et dans 10 minutes, notre débat du jour. À tout de suite.